Radio Okapi. Grande interview.
Processus électoral en cours, l'opposition politique congolaise réunie mercredi dernier à Kinshasa exprime sa profonde préoccupation face à l'attitude qu'elle qualifie de désinvolte de la CENI dans la gestion du dit processus. Elle insiste sur l'urgence des mesures correctives pour garantir la crédibilité des résultats des prochaines élections. Qu'est-ce qui fâche dans la manière de faire de la CENI? Pour en parler, Grande Interview reçoit ce jour le sénateur Jacques Joly, professeur d'université et spécialiste en droit constitutionnel. Jacques Joly a été vice-président de la CENI lors des élections de 2011. Aujourd'hui opposant, il va nous démontrer techniquement en quoi la CENI risque de produire des résultats contestables. Produite avec le concours de Alain Irung et Donna Madimba sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, cette émission vous est présentée par Michel Kifindangoy. La prise de son est signée Polydor Basunga. Merci de rester à l'écoute. Fidèles auditeurs des radios Okapi, bienvenue à ce nouveau numéro de Grande Interview qui se penche sur l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Nous avons donc la joie de recevoir dans ce studio le sénateur Jacques Joly. Professeur Joly, bienvenue dans Grande Interview.
Merci et je suis très heureux de me retrouver dans votre studio.
Avant toute analyse, votre portrait avec Jean-Marc Matouaki.
Joly Essengekeli Jacques est né le 26 octobre 1958 à Boende, dans la province de l'Équateur. Docteur en droit de l'Université de Paris 1, Panthéon Sorbonne, diplômé d'études supérieures, spécialisé en questions stratégiques et politiques de défense de l'Université de Paris 13, ville étaneuse, Jacques Joly est aussi diplômé d'études supérieures, approfondies en droit, option droit, société et institutions de l'Afrique francophone et pays méditerranéens, à l'Université de Perpignan, en France. Jacques Joly est également licencié en droit, option publique de l'Université de Kinshasa, où il est professeur ordinaire depuis 2015. Après avoir été tour à tour assistant, professeur associé et professeur full. Jacques Joly Essengekeli enseigne également dans plusieurs autres universités au pays comme à l'étranger. Il est professeur visiteur à l'université protestante au Congo, à l'université de Mbandaka, à l'université de Bujumbura, ainsi qu'à l'Académie de la théorie africaine des droits des KUL de Bruxelles. Professeur du cours d'analyse stratégique et planification à l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères, directeur à la chaire UNESCO et chef des départements prévention des conflits et bonne gouvernance. Jacques Joly est également recteur et promoteur de l'Université technologique de la Chuapa. Il a exercé plusieurs fonctions politiques durant son parcours. Il a été directeur des cabinets du ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, vice-président de la commission électorale nationale indépendante de 2011 à 2013, sénateur élu de la circonscription de la Chuapa en 2007 où il occupe les fonctions de vice-président de la commission défense et sécurité de 2007 jusqu'à nos jours. Avocat près la cour d'appel inscrit au tableau des Matété, Jacques Joly est également membre de plusieurs structures, notamment la Commission nationale des réformes des droits congolais, membre du groupe de recherche et d'appui aux politiques des paix de l'Université Saint-Louis de Bruxelles, membre également de la Société internationale des sciences et pratiques électorales. Jacques Joly Essengekeli est aussi auteur de plusieurs articles et de plusieurs ouvrages dont nous pouvons citer les constitutionnalismes congolais entre la gestion des héritages et l'invention du futur, ouvrage paru en 2006 aux éditions Connaissance africaine en France.
Portrait.
Alors, professeur Jacques Joly, comment évaluez-vous le processus électoral en cours?
Vaste question, parce que nous sommes dans un processus. on ne peut évaluer le processus qu'à la fin, par rapport au résultat. Mais néanmoins, l'étape actuelle, parce que si nous suivons les calendriers de la CENI, nous devons terminer le processus à la fin de l'année. Nous sommes au mois d'avril. Sur le schéma présenté par la CENI, il reste que globalement, en intégrant d'autres éléments, nous sommes dans ce qu'on peut appeler, certains estiment qu'il y a incertitude. Il y a des auteurs qui parlent d'un poker électoral, mais globalement, le calendrier présenté par la CENI est plus ou moins mis en place. Par contre, on sent qu'il y a un autre agenda, notamment avec l'opération de sensibilisation sur les machines à voter, qui ne se retrouve pas dans les calendriers électoraux et qui s'est fait donc de manière désincarnée et risque de poser problème.
Nous allons y arriver, mais vous avez été vice-président de la Commission électorale nationale indépendante en 2011. Et nous imaginons, nous pensons que vous avez suffisamment d'expérience. À votre époque, vous aviez annoncé les élections pour le 29 novembre. Malgré le doute, mais les élections s'étaient tenues à l'époque. Croyez-vous vraiment à la tenue des élections à la date du 23 décembre prochain?
Mais si vous posez déjà la question, c'est que vous avez des doutes. Je voudrais vous dire que un processus électoral a pour locomotive la volonté politique. Et s'il y a une volonté politique, on peut arriver. Vous avez parlé des élections de 2011, nonobstant toutes les critiques d'ailleurs justifiées qu'on peut faire sur ces élections. Je peux vous dire que moi j'ai prêté serment le 3 mars 2011 et il fallait organiser les élections en novembre 2011. Donc globalement, on avait une affaire de 8 mois, 6 à 8 mois. Et vous rappellerez que nous n'avions même pas un fichier électoral dont nous avons dû enrôler toute la République en moins de 4 mois. Commander le matériel, le déployer et finalement tenir la date de 26 novembre 2011. Donc, parce qu'il y avait une volonté politique. C'est vrai que ce n'est pas le seul paramètre, mais la volonté politique. Or, dans le processus actuel, depuis 2013 que la nouvelle équipe est là, il y a eu certes des phénomènes imprévisibles comme la perte du président l'abbé Malmalou, mais c'était un processus retardé, de sorte que les élections devaient avoir lieu en 2016. Elles n'ont pas eu lieu, et aujourd'hui nous sommes en 2018. Donc l'ensemble des institutions se trouvent dans une posture d'illégitimité par rapport à l'architecture et à la normativité prévue. Donc, si nous allons au-delà de 2018, avec les incertitudes, nous risquons de renforcer les conditions de la crise qui frappe notre pays et ça serait dommage qu'on y arrive là-bas.
À quelques mois des élections, la problématique de la double nationalité refait surface. Quelle perception avez-vous de ce débat?
D'abord, je crois que la question de nationalité, dans la plupart des élections africaines, se pose toujours lorsque on arrive à ces périodes. C'est une question qui est à la fois technique, mais on arrive à une certaine forme d'instrumentalisation. La nationalité, soit d'origine, soit d'acquisition. Si on a la nationalité d'origine et qu'on l'a perdue, je crois que le rôle de l'État dans sa neutralité, c'est de favoriser, n'est-ce pas, le recouvrement de cette nationalité et non d'utiliser ça comme une arme d'exclusion. Vous savez, ces exclusions, qu'elles soient objectives ou autres, mais des exclusions instrumentalisées sont à la base des conflits qui ont déchiré notamment la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Donc il faut utiliser cet argument avec la capacité d'abstraction d'un État, tout simplement.
Justement, certains candidats à la présidence, comme Moïse Katumbi, sont accusés de double nationalité et à cet effet exclus de la course, comme le prétend le secrétaire permanent du PPRD. Que dit la Constitution face à cela?
Mais je crois que les conditions pour être candidat sont fixées par la Constitution et la loi électorale. Donc, Moïse Katumbi a, n'est-ce pas, été choisi comme candidat du groupe des plateformes Ensemble. Je crois qu'il faut attendre, n'est-ce pas, le temps du dépôt de la candidature pour voir s'il remplit toutes les conditions. Mais il faut pas que de groupes politiques puissent, n'est-ce pas, préjuger, dire comme nous avons entendu, en violation de toute règle de prudence, je dirais même pas des présomptions d'innocence, commencer déjà à dire que telle personne est condamnée. Donc ça commence à devenir comme une sorte d'acharnement sur un candidat qui d'ailleurs, selon certains sondages, a beaucoup de chances, n'est-ce pas, à accéder à la magistrature. Nous devons éviter cette forme de stigmatisation parce que il est candidat, il n'aura qu'à présenter ses documents et sa candidature sera examinée suivant les normes. Parce que le processus électoral doit se dérouler dans un contexte apaisé. C'est d'ailleurs l'esprit, n'est-ce pas, de l'accord politique de Saint-Sylvestre. Et il est important qu'au-delà de cas emblématiques, comme on l'a dit, de Moïse Katumbi, qui doit rentrer suivant l'accord que nous avons tous signé, il y a aussi des amis qui sont en prison. La nationalité est une question juridique qui est réglée par la Constitution et la loi sur la nationalité. Chacun, s'il est congolais, et nous supposons, parce que c'est quand même dommage que ceux qui ont gouverné avec Moïse Katumbi commencent aujourd'hui à expliquer cette nationalité.
Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi. Grande interview ce jour se penche sur l'évolution du processus électoral en cours. Et nous recevons dans ce numéro le professeur Jacques Joly. Avec lui, nous analysons en profondeur tous les aspects du processus électoral. Alors, professeur Jacques Joly, l'opposition politique congolaise à laquelle vous appartenez remet en cause le fichier électoral publié par la CENI. Qu'est-ce qui motive cette position ?
Mais vous savez, la question du fichier électoral, c'est une question centrale pour toutes les élections du monde. C'est le processus préalable qui fixe le corps électoral, ceux qui sont votés. Et si on ne connaît pas ceux qui vont voter, ou si la liste électorale est opaque, biaisée ou non fiable, ben, il faut pas vous étonner que les élections posent un problème à la fin. Nous avons eu le même problème en 2006, en 2011... avec les OMI qui arrivent toujours à plus ou moins 6 millions, ce qui est énorme. Et la réponse à cette question, elle est d'abord structurelle. C'est-à-dire, tant qu'on ne maîtrisera pas l'état civil et que le corps électoral sera toujours déterminé de manière ponctuelle ou conjoncturelle comme maintenant, avec l'enrôlement, ne disposant pas des documents d'état civil, nous avons des risques objectifs, n'est-ce pas, pour arriver à des contestations. Alors, il appartient donc à la CENI. Tirant les leçons des difficultés de 2006 et 2011, nous avons cru que on allait résoudre le problème. C'est ce qui était annoncé. Malheureusement, malgré un appel d'offres d'une nouvelle entreprise, malgré le plus de 2 ans qu'on a pris pour, n'est-ce pas, enrôler, le résultat semble plutôt décevant. Décevant parce que on est arrivé à plus ou moins 46 millions d'enrôlés, mais au finish, il y a plus ou moins 5 millions de doublons qu'on a radiés et plus ou moins 1 million de bébés et mineurs qui ont été enrôlés. Donc, ce qui nous amène, selon la CENI, à 6 millions. D'ailleurs, sur ce point-là, le jour où la CENI donnait ses résultats, sous les tableaux, il y avait déjà une erreur. Il y avait plus ou moins 29 000 électeurs de moins ou de plus dans le tableau de la CENI. Ce qui a poussé l'opposition à dire le caractère peu sérieux du travail. Deuxièmement, sous ce fichier, selon le propre propos de M. Nanga, on continue à traquer les doublons. Donc, le travail n'est pas fini. Alors, on nous a présenté des données, mais ces données ne sont pas définitives. Or, un fichier électoral doit obéir à un certain nombre de conditions. D'abord, l'unicité. On ne peut pas, comme dans le cas présent, avoir un fichier qui va servir à adopter l'annexe sur la répartition des sièges et ensuite attendre l'enrôlement de Congolais de l'étranger. Et nous savons, de ce côté, il y a encore beaucoup plus de problèmes, notamment ces problèmes que vous avez sur les nationalités. Donc, le fichier n'obéit pas à la condition de l'unité et d'exhaustivité. Le fichier pose un problème de fiabilité, je vous ai dit. Et surtout, ce qui interpelle, c'est on ne voit pas la méthodologie utilisée. D'abord, l'entreprise de prestataire, qui l'a recrutée, dans quelles conditions? Il semble que c'est une entreprise lituanienne. Mais c'est quand même beaucoup de pays, si on demande à beaucoup de Congolais où se trouve la Lituanie, ça doit quand même poser un problème. Quel est le logiciel utilisé par la CENI pour extraire, n'est-ce pas, ces doublons? On voit par exemple le Sankuru a un taux de croissance, d'augmentation de lecteurs entre 2006 et 2011 qui avoisine 180%. Au moment où Kinshasa, qui est la ville la plus peuplée, n'a un taux d'augmentation qui est simplement de 34%. Ces gaps-là, ça pose des problèmes. On a enlevé 800 000 dans le Sankuru. On a enlevé dans la Chuapa. Et nous nous retrouvons à Chuapa avec des chiffres extrêmement bas. Alors que si vous allez dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, et même dans d'autres provinces où il y a l'insécurité, on se trouve avec un taux extrêmement élevé, n'est-ce pas, d'enrôlés. Ce qui pose un problème dans leur représentativité. Donc, la méthodologie, les logiciels, le choix du prestataire jettent des doutes sur la fiabilité de ces résultats et sur leur intégrité.
Professeur, vous êtes spécialiste en la matière. Vous maîtrisez
bien. Je ne suis pas
bien,
spécialiste, j'ai une petite expérience.
Vous maîtrisez quand même les questions électorales. Oui. Avez-vous effectué une étude rigoureuse, ou mieux, avez-vous des preuves tangibles attestant que le fichier électoral publié est corrompu, ou alors vous êtes encore juste dans les suspicions?
Vous savez, nous donnons ces avis à partir de données que la CENI elle-même fournit et de l'observation. Et des principes qui sont, n'est-ce pas, des principes et des standards internationaux qui fixent les éléments déterminants d'un fichier. Et au-delà de tout ce que j'ai dit, intégrité, unité, fiabilité, exhaustivité, il y a une question essentielle, la confiance. Si en 2011, nous avons eu des difficultés, c'est parce que nous sommes allés dans un processus sans consensus entre parties prenantes. La CENI, c'est un arbitre, et une des conditions essentielles pour la gouvernance électorale, c'est que vous devez faire un effort pour rester neutre, pour rester professionnel. Lorsque la CENI apparaît comme le bras armé d'un groupe, en adoptant systématiquement les positions de ce groupe, et ça pose un problème. La grande faiblesse de nos processus électoraux, c'est que nous, les organisateurs des élections, nous croyons que ça nous appartient au nom d'une vision très galvaudée de l'indépendance. La CENI est une institution qui doit être à l'écoute des parties prenantes, c'est-à-dire des partis politiques, de la société civile et même de la communauté internationale. Lorsque la CENI s'est recroquevillée pour faire de fuite en avant, il n'est que normal que son travail soit rejeté, et le rejet à ce niveau peut avoir des conséquences très graves sur le résultat final.
Alors visiblement, on trouve que l'opposition politique ne fait que tergiverser depuis les débuts. Non, pas recensement, mais non, on fait la révision du fichier électoral. Vous trouvez aussi que le fichier n'est pas bon. Cette tergiversation de l'opposition congolaise ne témoigne-t-elle pas que vous n'êtes pas encore prêt d'aller aux élections?
Non, je crois que une opposition opposante éternelle n'est pas une opposition. Quand on fait de l'opposition, c'est pour accéder au pouvoir. Il faut aller aux élections. Et tout le monde, les Congolais, veulent qu'on aille aux élections. C'est une demande forte, c'est un principe structurant d'une démocratie. Mais une élection, il ne faut pas y aller comme un agneau qui doit être immolé. Il faut donner de garanties. Ce n'est pas de la tergiversation. Si nous sommes là aujourd'hui, depuis 2013, c'est parce que l'organe de gestion des élections n'est pas à l'écoute de partis politiques, n'est pas à l'écoute de parties prenantes. Et je crois que j'apprécie les temps du communiqué de l'opposition. L'opposition n'est pas encore arrivée à désavouer la CENI. Or, si vous avez vu le dernier sondage, 70% des Congolais n'ont plus confiance à la CENI. Mais l'opposition demande que la CENI prenne des mesures correctives. Et j'espère qu'il n'est pas encore trop tard pour bien faire.
Vous le savez bien, la CENI n'a pas pu organiser les élections dans le délai constitutionnel, prétextant que le fichier électoral de 2011 était corrompu. En rejetant ce fichier récemment produit, ne risquez-vous pas de donner un nouvel argument à ceux qui ne veulent pas que les élections se tiennent dans ce pays?
Non, je crois que vous avez raison de parler de prétexte. Mais vaut mieux anticiper que prendre des mesures curatives. En d'autres termes, moi personnellement, parfois j'apparais comme eux ils appellent le négativiste, je dis toujours, et j'étais très heureux il y a deux jours d'attendre le président Wemuluda, qui par moment s'est un peu laissé aller, revenir au principe et demander à la CENI de travailler dans la recherche du consensus. Rappelez-vous quand on disait « Okulele la Muno Kwamboka » et puis l'autre dit « Yopokulele la Muno Kwamboka ». À ce moment-là, ça crée de crispation et ça bloque le processus. Et malheureusement, je crois que M. Nang en était peut-être pas ici, il tombe dans une forme d'expertocratie en prenant des décisions abstraites et techniques au nom d'une indépendance, comme je vous dis, mal maîtrisée. Non, c'est un organe technique, c'est un service public au service de tout le parti. Et vous vous rappelez en 2011, les débats que nous avons eus sur l'accès au serveur central.
Effectivement.
Ce débat nous a desservi. Les acteurs politiques doivent être intégrés dans l'ensemble du processus depuis les débuts.
Mais le bureau de la CENI lui-même est constitué de délégués des partis politiques.
Non, à partir du moment où les délégués des partis politiques sont là, ils deviennent le membre de la CENI. Mais aujourd'hui, qui constitue ces bureaux? C'est déjà un des problèmes fondamentaux de ces bureaux de la CENI. Il y a une jurisprudence, n'est-ce pas, de la Cour africaine des droits de l'homme, qui demande que ça soit des compositions paritaires. Lorsque vous analysez ce qui sont à la CENI aujourd'hui, plus de 90% sont issus de la majorité. Et parmi les gens de l'opposition qui sont là, l'UDPS demande qu'on change M. Kalamba, qui est devenu le chantre de la majorité. On ne le fait pas. M. Gustave Omba a dénoncé, par exemple, que des contrats sur la machine à voter, ces contrats n'ont jamais passé par la plénière. En fait, lorsque on a reformulé la CENI, sa structure, il n'était pas question que le bureau prenne le dessus. Donc, le processus interne de prise de décision de la CENI pose déjà problème.
Vous venez de nous rejoindre en cours de mission. Vous êtes en train de suivre Radio Okapi. L'émission Grande Interview aujourd'hui reçoit le professeur Jacques Joly. Il est sénateur et ancien vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Avec lui, nous évaluons le processus électoral en cours. Professeur Jacques Joly, parmi les divergences autour du processus électoral en cours, il y a aussi la problématique de la machine à voter. Pourquoi contestez-vous cette machine?
Mais je crois que c'est toute la société congolaise qui conteste la machine. Et avant même la société, outre la société congolaise, nos partenaires. La technologie, nous n'en sommes pas maîtres. Et ceux qui sont les maîtres de la technologie, les États-Unis, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Union européenne, nous déconseillent une technologie, nous devons bien écouter. La question de la machine à voter se pose à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau constitutionnel. Tel que présenté, il se pose un problème des élections telles que exigées par la Constitution. On ne comprend pas comment le secret de vote doit se faire à travers cette machine. Et ils en sont conscients. Deuxièmement, sur le plan du droit, de la législation, l'article 237-1 interdit l'usage de la machine à voter à ce stade du processus. Et sur ces processus législatifs, la CENI est venue au Parlement avec la révision de la loi électorale. On nous a dit que la question de la machine à voter ne pouvait pas faire l'objet d'un débat parce que on en parle, ça n'existait pas. Donc c'est presque par fraude que la CENI excipe la machine à voter. Lorsqu'on regarde le calendrier publié par la CENI en novembre 2017, il n'y a pas de machine à voter. Au point 38-39, on parle très bien de l'impression des bulletins de vote, de déploiement. Donc, la CENI doit respecter son propre calendrier. Mais d'où vient la machine à voter? C'est un contrat opaque qui n'a pas respecté la procédure congolaise en matière de marché public. Je voudrais vous dire que pour avoir les kits d'enrôlement, la CENI a annulé les contrats passés par ZS au motif que ces contrats n'avaient pas respecté la procédure. Et la CENI s'est donné 6 mois pour avoir signé un contrat avec Gemalto. Donc il n'y a pas eu d'appel d'offres. Et la situation qui se passe aujourd'hui en Corée, où la commission électorale coréenne est à procès contre les gens les présidents de l'association. Toutes ces sociétés coréennes ont pris des distances. Les contrats lui-même est entaché de beaucoup d'irrégularités. Dans son fond, une machine qui est vendue $400 est rendue à Kinshasa $1,500. 150 millions. Comment on peut expliquer toutes ces erreurs-là? Et aujourd'hui, sur le plan purement pratique, Monsieur Michel Kifindako, si vous prenez la machine dont personne ne contrôle le logiciel, qui l'a programmé, mais qu'ils essaient de voir comment ça se passe au Brésil. On a dû prendre du temps, 5 ans pour commencer d'abord des expériences à petite échelle et tirer les leçons. Vous venez avec une machine dont personne ne comprend, dont ne connaît pas le logiciel, qui va poser un problème de justiciabilité, c'est-à-dire contentieux. Ça veut dire quoi? Lorsque la machine vous donne le résultat, ces résultats n'est pas directement donné comme l'exige la loi électorale. C'est-à-dire, on renvoie ça à Kinshasa, et c'est Kinshasa avec le seuil qui va dire aux structures de base que c'est elle à gagner. Mais vous vous rendez compte de conditions, de chaos que ça peut créer. C'est pourquoi on a conseillé à la CENI de rester dans un premier temps dans un processus normal. Il faut éviter des innovations qui risquent de nous poser des problèmes inutiles.
Professeur, nous n'avons plus de temps. Il ne nous reste que 4 minutes pour conclure. Du moment que la CENI dit cette machine ne va servir qu'à imprimer les bulletins de vote,
c'est un mensonge.
Pour éviter les bulletins syllabus auxquels nous avons vécu en 2011.
C'est un faux. Je vais vous dire, les bulletins syllabus, on l'a eu dans quelle ville? À Kinshasa, peut-être à Lubumbashi ou Mbujimayi. Donc on ne peut pas exciper cela. C'est un mensonge qui traduit justement la volonté, n'est-ce pas, de tromper l'opinion.
Pensez-vous qu'il est encore techniquement possible de recourir au bulletin papier sans perturber les calendriers électoraux?
Mais la machine à voter ne se trouve pas dans les calendriers. Je vous ai dit, prenez la décision de la CENI, publiant le calendrier. Il n'y a pas de machine à voter, c'est un agenda extra-légal ou extra-réglementaire. C'est un processus que personne ne contrôle, ni l'acquisition, ni le marché. Même la sensibilisation se fait en dehors du processus électoral. C'est ça déjà le problème.
Et qu'adviendra-t-il donc si la CENI maintenait le vote par machine malgré des multiples contestations?
Mais on n'aura qu'à subir les conséquences, parce que vous vous rendez compte, si par exemple à Mbandaka, l'MLC a 2-3 sièges et que par la machine à voter, dont on perd son contrôle, doublé avec le seuil, on dit que c'est elle qui a gagné. C'est très grave. Personne ne contrôle le processus et même les pays comme la Belgique qui ont renoncé. Donc la machine à voter n'obéit ni aux conditions techniques pour faire le jeu, encore moins aux conditions légales. Comment les partis politiques pourront maîtriser les scrutins? Il y a 3 scrutins le même jour pour un bulletin qu'on va découper après. Non, je crois que c'est une expérience hasardeuse et je crois que la CENI doit revenir à la raison.
La toute dernière question, professeur. La CENI annonce 2 appels d'offres d'audit interne du fichier électoral, mais aussi de la certification de la machine à voter. Et cela vous apaise-t-il?
Je suis désolé. L'audit n'est pas une opération curative, c'est une opération de constatation. Et d'ailleurs, l'audit doit se faire avant la répartition des sièges. Vous allez répartir le siège et vous faites auditer. À quoi ça sert? Et ensuite, cet audit se fait avant l'enrôlement des Congolais de l'étranger. On va encore auditer après. Donc, il y a beaucoup d'incohérences. Alors, à ce qui concerne l'appel d'offres pour la certification, mais c'est une rigolade. C'est de la rigolade. Vous ne faites pas l'appel d'offres pour acquérir les machines qui vous ont coûté probablement 150 millions. Vous faites un appel d'offres pour la certification. On va certifier quoi? Ce sont des opérations qui, n'est-ce pas, consistent tout simplement à jeter la poudre aux yeux des électeurs. Il faut revenir au basique, c'est-à-dire à l'intégrité, à la simplicité et à l'humilité.
Et que préconisez-vous donc au regard de tout ce problème que vous venez d'évoquer dans 30 secondes?
Je crois que nous sommes encore à plus ou moins 8 mois. La CENI doit revenir sur terre et écouter ce que demande le peuple, écouter ce que demande le parti prenante, écouter ce que nous dit la communauté internationale et non s'embarquer dans un jeu que la majorité veut l'amener. Une majorité qui n'a pas de candidats, qui ne veut pas des élections depuis 3 ans et qui utilise la CENI comme un masque udé pour arriver à ses objectifs.
Professeur Jacques Joly, je vous remercie.
Et c'est moi qui vous remercie.
Fin de grande interview sur Radio Okapi. Cette émission vous est produite grâce au concours de Alain Irung et Donna Madimba sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Michel Kifindangoy vous l'a présenté et Polydor Basunga était à la prise de son. Merci de rester fidèle à Radio Okapi, fréquence de la paix. Nous prenons rendez-vous avec vous pour un nouveau numéro à samedi prochain. Même fréquence, même heure. Radio Okapi, Radio de la Paix, merci et au revoir.